Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Leka. On aura ensuite trois petits mangas des éditions Glénat avec la chronique du volume 38 de One Piece, la chronique du volume 25 de Inomaru Sumo et la chronique du volume 12 de Gundam Last Order, la réédition 2018. On aura ensuite un point sur les sorties mangas de la semaine. On continuera à parler culture avec les onsen et les tatouages. On aura ensuite une petite actualité au Japon avec le Premier ministre qui mange dans une vidéo du poisson de Fukushima sûr et délicieux. Et on finira l'émission avec une news musicale concernant le groupe Sexy Zone qui annonce son retour avec un nouveau single intitulé Honne to Tatemai. On va donc commencer avec la première chanson de l'émission, c'est Gesekai de Bucktick qui a servi de premier opening pour l'anime Nightwalker Mayonaka no Tantei. Et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Leka.
Thank you. Pina.
Donc c'était Bucktick avec la chanson Gessekai, qui a servi de premier opening pour l'anime Nightwalker Mayonaka no Tantei. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Leka, de son vrai nom Saito Reina. Donc c'est une autrice, compositrice et chanteuse japonaise de pop, R&B et reggae, qui est également politicienne. Née en 1982, elle est âgée de 41 ans, elle a fait ses débuts en musique en 2000 et elle est toujours en activité aujourd'hui. Elle fait partie du label Cutting Edge et de l'agence Artimage. En 1999, Leka entre dans la Plastudy Music School, une école de chant. Là-bas, elle entraîne sa voix, apprend la danse et reçoit des cours de musique théorique. Pendant sa scolarité, elle fait également partie du showcase Club Goodman, organisé par l'école à Akihabara. Les années passent et Leka commence à beaucoup jouer dans les clubs. Elle commence à devenir connue et continue de chanter donc dans les clubs les plus populaires de Tokyo, tels que Shibuya Asia, Buenos, Ikebukuro Bridge, Pure ou encore Roppongi Core. Après avoir été diplômée en 2002, Leka voyage. Elle va à New York et Toronto pour un total de 6 mois à l'étranger. Lors de ses voyages, elle coécrit et produit certaines de ses musiques avec des artistes locaux. C'est durant cette période que Leka a développé son style reggae. Elle retourne au Japon en 2003 et rejoint le groupe de hip-hop Legnis en tant que vocaliste et principale autrice-compositrice. Avec son groupe, elle fait beaucoup de concerts dans divers clubs aux alentours de Tokyo. Et en 2004, elle devient amie avec l'artiste reggae japonaise Pang avant de faire un duo sur son mini-album. Elle collabore aussi sur deux musiques du mini-album de Pang, donc Aha et Yurari, en tant que compositrice. Elle est ensuite invitée par Pang à chanter avec elle au populaire festival Japan Reggae Festa in Okinawa. Elle signe avec un label Indies en 2005, lui permettant ainsi de sortir son premier album, intitulé Leka. Malgré les mauvaises ventes du moment, il est très bien reçu par les diverses critiques. Cet album a été fortement influencé par le reggae avec des sonorités dancehall. 2006 est un tournant dans la vie de Leka, elle est d'abord invitée au Reggae Japan Splash Six Spring, aux côtés de légendes du reggae telles que Gregory Isaacs et Marcia Griffiths. Puis en avril, Leka fait ses débuts majeurs sous le label annexe d'Avextrax, Cutting Edge, avec le mini-album Dreamer. L'année suivante, Leka gagne beaucoup en popularité. Elle apparaît au Woofing Girls Night, mais aussi au Girls Park. Pour son second album majeur, Otaku Girls no Utage, Leka montre une plus large palette musicale. Cet album est un mix entre son style habituel et certaines musiques dance des années 80. En 2008, Leka sort un deuxième mini-album intitulé Mado no Moko, produit par le fameux producteur jamaïcain Christopher Birch, qui est notamment connu pour son travail avec Shaggy et bien d'autres. Leka lui confie également la production de son troisième album, City Caravan, qui est particulièrement riche en featuring, avec des artistes tels que le groupe jamaïcain Voicemail ou encore le rappeur Digimo du groupe Soul and Out. Cet album côté un véritable succès, Leka organise ensuite divers concerts avec donc son talent et sa popularité qui s'accentuent à chaque sortie d'album. En octobre 2016, elle se convertit au milieu politique et opte pour son vrai nom, Saito Reina. En juillet 2017, elle remporte un siège à l'Assemblée métropolitaine de Tokyo. Elle est très sensible à l'éducation des enfants en faisant un des points clés de son programme. En effet, étant mère de deux enfants, elle appelle au pouvoir des politiques d'instaurer des mesures contre la maltraitance des enfants. Donc côté discographie, elle a sorti un total de 12 albums, le premier Leka qui est sorti le 15 février 2005 et le dernier High Street qui est sorti le 1er mars 2017. On compte 3 mini-albums, le premier Dreamer qui est sorti le 26 avril 2006 et le dernier Akobune Ballads in Me qui est sorti le 9 mars 2011. On a un best album, Best Positive, qui est sorti le 27 janvier 2016. 5 singles, le premier qui est donc intitulé For You, qui est sorti le 4 mars 2009. Et le dernier, Hope, qui est sorti le 14 décembre 2011. Elle a également sorti 8 digital singles, le premier Mata Itsuka qui est sorti le 9 février 2011 et le dernier Zero to One qui est sorti le 9 avril 2022. Elle a participé également à 4 compilations, la première Seal of Fragrance Platinum Allure qui est sorti donc le 9 décembre 2009 et la dernière Eistai Hits Avex qui est sorti le 3 juin 2020. Pour finir, elle a interprété 2 génériques de drama qu'on va pouvoir s'écouter. Donc juste après, on a le générique My Misure pour le drama Jean qui est sorti en 2009 et la chanson Live Again qui donc a été utilisée pour le drama Dekin no Onna en 2015. Voilà, donc du coup on va pouvoir s'écouter tout de suite My Misure de Leka qui a servi donc de chanson thème pour le drama Jean et on vient juste après pour la chronique du volume 38 de One Piece.
Major, oh, I'm a major.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Leka avec la chanson Live Again qui est servie de chanson thème pour le drama Dekin no Onna. On passe maintenant à la chronique du volume 38 de One Piece. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, drame, fantastique qui a été écrit par Oda Eiichiro, traduit par Jamel Rabahi, Julien Favreau et Sylvain Chollet pour la première édition et prépublié dans le Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 106 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec 104 tomes pour le moment. Ce volume 38 est sorti le 6 juin 2007 au prix de 6,99€. Le résumé du tome, Franky et Iceberg se remémorent la façon dont les plans leur ont été confiés, puis comment ils ont tout fait pour les protéger. Après avoir été sauvé de l'incendie, Iceberg s'entretient avec Nami et lui apprend la terrible vérité derrière la trahison de Robin. Heureuse et effrayée à la fois, Nami choisit de tout tenter pour l'arrêter avant le départ du train des mers pour Enies Lobby. Donc après la petite pause dans le récit nous racontant l'histoire de Tom, Iceberg, Cutie Flame et Kokoro, Oda relance l'action dans ce tome. Même si finalement il ne se passe pas encore beaucoup de choses et que l'histoire n'avance pas beaucoup, il met les choses en place et, comme Luffy et son équipage, on se prépare à l'affrontement final qui va avoir lieu dans les prochains tomes et qui s'annonce terrible. Mais pour l'instant, c'est les préparations. Il faut réunir l'équipage, ébranlé par le départ de Robin et d'Usopp. Oda construit sa toile petit à petit et l'histoire est très rythmée de par le départ du train pour Enies Lobby et l'arrivée de l'Aqua Laguna. Arriveront-ils à temps pour sauver Robin des mains du gouvernement et que va devenir Usopp ? Le dessin est lui aussi encore à l'honneur, la ville de Water Seven est très détaillée avec tous les bâtiments de la ville haute et de la ville basse. Oda arrive à créer des univers toujours très surprenants et avec le rythme des parutions auquel il est soumis et les recherches dont il s'inspire pour son univers, dont il parle parfois dans les questions que tout le monde se pose, on se demande où il trouve encore le temps de nous dessiner ces belles planches. Bref, on a ici un tome assez captivant qui rappelle un peu l'arrivée à Alubarna dans le tome 20, avant la bataille décisive contre Crocodile. Voilà, donc je rappelle que la série One Piece est à retrouver aux éditions Glénat avec pour le moment donc 104 tomes de sortie. On va pouvoir s'écouter tout de suite le 6ème opening de l'anime One Piece, c'est Brand New World D51. Et on revient juste après pour la chronique du volume 25 de Inomaru Sumo.
Oh,
Donc c'était D51 avec la chanson Brand New World qui est servie de sixième opening pour l'anime One Piece. On passe maintenant à la chronique du volume 25 de Inomaru Sumo. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action-drame vie scolaire qui a été écrit par Kawada, traduit par Julien Favreau et prépublié dans les Shonen Jump et Shonen Jump Next. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec 28 tomes qui terminent la série et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 28 tomes. Ce volume 25 est sorti le 6 avril 2022 au prix de 6,99€. Le résumé de ce tome, déterminé à conquérir le grade de Yokozuna, l'Ozeki Kinkaizan décide de mettre toutes ses forces dans la bataille. Quelle stratégie Inomaru va-t-il adopter face à ce mur qu'il lui faut absolument franchir et que lui réserve son match du lendemain face à l'Ozeki Kusanagi? Opposés pour la première fois depuis 2 ans et demi, les deux hommes vont laisser éclater leur rage de devenir Yokozuna. Donc le tournoi se poursuit et Inomaru n'a plus le droit à l'erreur. Il ne peut plus se permettre de subir encore une défaite s'il compte remporter le tournoi. Mais ses adversaires sont encore nombreux et parmi eux se trouve l'élite du sumo. Pour l'heure, il fait face à un vétéran qui veut prouver qu'il a sa place au milieu de cette élite et qui est donc prêt à tout pour remporter la victoire face à Inomaru. Ce qui est très probablement le dernier arc du manga se poursuit et on laisse maintenant de côté les introspections et autres doutes pour ne laisser place qu'à l'action. Pour autant, l'auteur n'en oublie pas ses personnages et continue de les développer, et puisqu'on s'est largement penché sur le cas de Inomaru, il va donc creuser maintenant ses adversaires. L'affrontement en cours tient ses promesses, bien que le personnage de Kinkaizan ne représentait pas véritablement une menace à ce stade du récit. Encore une fois, l'auteur va le développer, nous présenter un personnage intéressant et attachant, avec ses failles, ses doutes, ses propres motivations. Et si à aucun moment le lecteur n'envisage qu'il puisse gagner, on n'en regrette pas moins que ce personnage n'ait pas été mis davantage en avant plus tôt dans la série, car ici Kawada tenait quelque chose. Il nous sort en effet des éternels adolescents voulant prouver leur force avec un personnage plus ancré dans le réel et le réaliste. Cependant, même si la victoire de Inomaru n'a jamais fait le moindre doute, le combat n'en est pas moins prenant et diablement bien mis en scène. Donc certes, le suspense ne prend pas vraiment, mais le talent de l'auteur dans sa mise en scène n'est plus à démontrer. Dans la deuxième moitié du tome, on passe sur du beaucoup plus lourd. Notre jeune héros va se retrouver face à Kusanagi, et là par contre, le doute s'insinue dans l'esprit du lecteur. Et si, contrairement à ce qu'on peut penser, l'auteur avait d'autres plans en tête pour son personnage principal? Et si Inomaru n'était pas destiné à remporter ce tournoi? Et si, malgré tout, il devait le remporter avec une défaite supplémentaire? Autant de questions qu'on se pose forcément lorsqu'on assiste à ce face-à-face grandiose, nous renvoyons bien des tomes en arrière à l'époque où il n'était pas encore professionnel et que Kusanagi était invincible et l'homme à abattre. Si l'auteur fait durer l'affrontement, le plaisir est entier du début à la fin, avec en prime une double page qui fait son petit effet avant d'en terminer avec, une fois encore, un suspense assez insoutenable. On ne peut pas enlever à l'auteur qu'il s'est joué avec nos nerfs. Nous avons donc là un excellent volume qui, mine de rien, nous approche à grands pas de la conclusion, et c'est toujours aussi efficace. Voilà, donc je rappelle que la série Inomaru Sumo est à retrouver aux éditions Glénat, une série qui est terminée en 28 tomes. On va pouvoir s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Inomaru Sumo, c'est Firegram de Official Age Dandism, et on vient juste après pour les sorties manga de la semaine.
Thank you.
Donc c'était Official Age d'Andism avec la chanson Fireground qui a servi de premier opening pour l'animé Inomaru Sumo. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura une sortie demain mardi 5 septembre avec chez Picoma Europe le volume 1 de l'édition numérique de My Idol is Talking Me. Ensuite pour mercredi 6 septembre chez Pika on aura le volume 10 de A Couple of Cuckoos, le volume 1 de All Out, le volume 7 de Criminel Fiançailles, le volume 2 de Goddess Café Terrace, le volume 12 de I'm Standing on a Million Lives, le volume 9 de Komi Cherche ses mots, le volume 5 de Meurtre dans le Décagone qui sera le dernier tome de la série, le volume 18 de Orient Samurai Quest, le volume 3 de Sengoku Chronique d'une ère guerrière, le volume 12 de So I'm a Spider, So What, et le volume 4 de Under Ninja. Aux éditions Glénat, on aura la sortie du volume 1 de After God, le volume 25 des Gouttes de Dieu Mariage et le volume 26 de Tokyo Revengers. Aux éditions Mangetsu, on aura la sortie du volume 18 de Ao Ashi, le volume 6 de Ikusa no Ko, la légende d'Oda Nobunaga, et le volume 1 de l'école des composés. Aux éditions Panini, on aura la sortie du volume 12 de Aozora Yell, Un amour en fanfare, de la réédition 2021, et le volume 1 de Mars, l'édition Deluxe. Aux éditions Nazca, on aura la sortie des volumes 4 et 5 de Black Fist et le volume 15 de Soul Land. Aux éditions Nobinobi, on aura la sortie du volume 6 de By the Grace of the Gods, le volume 7 de Colocataire à leur manière, le volume 1 de Eizouken, pas touche à nos animés, le volume 1 de Magu God of Destruction, le volume 4 de PPPPPP et le volume 7 de À quoi tu joues Ayumu. Chez Doki Doki, on aura la sortie du volume 6 de Cautious Hero qui sera le dernier tome de la série, le volume 1 du Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, le volume 4 de Play It Cool's Guys, le volume 2 de Power Antoinette et le volume 3 de The Dark Scent qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Veritoon, on aura la sortie du volume 4 de Clean With Passion, le coffret avec les volumes 7 à 9 de Solo Leveling et le volume 2 de The Beginning After The End. Aux éditions Le Lézard Noir, on aura la sortie du volume 3 de Hirayasumi et le volume 2 de Moi Tsushima. Chez Crunchyroll, on aura la sortie du volume 4 de Itomoji Stress Mortel qui sera le dernier tome de la série et le volume 16 de Mashal. Chez Kamando Books, enfin, on aura la sortie du volume 1 de Pervers en devenir et le volume 5 de Return of the Demonic Master. On passe maintenant aux sorties pour jeudi 7 septembre, donc au Shikihun, on aura la sortie du volume 1 de B-Side, le volume 12 de City Hunter Rebirth, le volume 4 du Mouvement de la Terre, le volume 2 de Kamisama School, le volume 4 de Valalian The Black Iron et le volume 17 de Valkyrie Apocalypse. Aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 1 de Cherry Magic, le volume 4 de Je crois que mon fils est gay, le volume 1 de Monstrophobie et le volume 7 de Sasaki et Miyano. Aux éditions Komiku, on aura la sortie du volume 16 de King of Ants, le volume 2 de Obey Me, l'Académie des Démons, et le volume 1 de Vatican, Carnet de Voyage. Aux éditions Mana Books, on aura le volume 2 des 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, le volume 5 de Sakura Wars, le volume 3 de Villageois niveau 999, et le volume 1 de Yokai Wars. Aux éditions Omaki Books, on aura la sortie du volume 4 de Monstabu, qui sera le dernier tome de la série. Et enfin, aux éditions Kurokawa, on aura la sortie du volume 1 de l'édition double de Pokémon Noir et Blanc. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 8 septembre, avec chez Noef Crafts le volume 4 de Asobi Asobase, le volume 1 des Noces de Lala, le volume 1 de Monotone Blue, et le volume 3 de Police in the Pod. Chez Mao Edition, on aura la sortie du volume 5 de Berserk of Lutoni, chez Vega Dupuis, le volume 9 de Genesis, le volume 2 de Kaio Dante et le volume 1 du Bateau Usine. Aux éditions Shiba Edition, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de Girl Crush et le volume 1 de Innocence. Aux éditions Nioh Niba, on aura la sortie du volume 1 de Reika, ma splendide maid. aux éditions Reborn, le volume 3 de Sinners, aux éditions Kana, le volume 10 de The Elusive Samurai, le volume 2 de Trap Hall et le volume 13 de Undead Unlock. Et enfin, aux éditions Komogi, on aura la sortie du volume 3 de The Lion in Manga Library. Voilà, donc c'est tout pour les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Insanity de Kalmando Kual. Et on reviendra juste après pour parler culture avec les onsen et les tatouages.
We'll be right back.
Donc c'était Calmante de Quale avec la chanson Insanity. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler des onsen et des tatouages. Donc la bonne nouvelle avec les tatouages, c'est que ce ne sont pas vraiment les tatouages en eux-mêmes qui sont interdits, mais le fait de les montrer. Alors oui, au onsen ou à la plage, il est quasiment impossible de ne pas montrer un tatouage. Mais pour tout autre endroit de type gym, boîte de nuit, etc., je vous conseille d'emporter dans votre valise au moins un haut à manches longues léger et de l'enfiler avant d'entrer. Et si vous souhaitez profiter d'un onsen interdit aux gens tatoués, il existe une solution. Vous pouvez dissimuler vos tatouages. Donc si votre tatouage est suffisamment petit, vous pouvez acheter des patchs couleur peau et les appliquer pour couvrir votre tatouage avant d'accéder au onsen. Certains sont de très bonne qualité et résistent parfaitement à l'eau du bain, même si ce n'est pas parfait, peu importe. La règle anti-tatouage des onsen est un peu hypocrite. Si le tatouage est couvert, même mal couvert, alors les gens fermeront les yeux sur le fait que vous en avez un. Autre solution de fortune, un bandage ou un pansement. Mais attention, ne venez pas dans le bain avec un bandage qui couvrirait tout votre bras ou votre cuisse entière. Cela serait considéré comme sale et peu poli pour les autres personnes prenant le bain avec vous. Cette mesure n'est applicable que sur les petits tatouages donc. Voilà, donc on continuera à parler donc des onsen et des tatouages la semaine prochaine. En attendant, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Mukui Ballet de Kanzel et on reviendra juste après pour la chronique du volume 12 de Gunm Last Order, la réédition 2018. We'll be right back. Donc c'était Kanzel avec la chanson Mukui Ballet. On passe maintenant à la chronique du volume 12 de Gunm Last Order, la réédition 2018. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action science-fiction qui a été écrit par Kishiro Yukito, traduit par Olivier Huet et prépublié dans les Ultra Jump et Evening. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 12 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 12 tomes. Ce volume 12 est sorti le 17 février 2021 au prix de 9,60€. Donc le résumé de ce tome, pendant que Gally et ses compagnons se livraient un combat sans merci, la nouvelle de la disparition de son ami parvenait aux oreilles de Foggia. Il quitte son village en quête de réponse. Lui et Ido parcourent la désolation sur les traces de Gally. La conclusion 20 ans après d'un chef-d'œuvre de la science-fiction, la meilleure des occasions de porter un nouveau regard sur Gunm, et le récit prend un nouvel envol. Donc après bien des passages difficiles, des détours sans grand intérêt, des digressions incompréhensibles, alors que le mythe était sur le point de s'effondrer, dans un dernier soubresaut, l'auteur vient conclure son œuvre, de toute une vie, de faire de fort belle manière. Foggia, amoureux fou de Gally, est absolument déterminé à la retrouver. Au cours de son périple, il rencontre Ido, personnage clé dans la vie de cette dernière, mais celui-ci est amnésique. Après de multiples péripéties qui coûteront la vie à certains de leurs amis, ils reprennent la route pour retrouver la jolie cyborg à la bouche de poulpe. Après la mort de Keina et un jugement sommaire, nos deux compagnons s'échappent et suivent la piste de Gally, ce qui va les conduire à la décharge où ils vont retrouver Chaos et Koyomi. Quoi de mieux pour clore cette série qu'un retour aux sources ? Excite les personnages sans grand intérêt du tournoi, excite les intrigues pompeuses, excite les pièces rapportées, on retrouve les piliers qui ont soutenu Gunm et non pas Gunm Last Order. Et tout ce tome ne sera consacré qu'à eux, avec une mention spéciale pour Chaos et Nova, le scientifique fou présent depuis le début qui règle leur compte en famille. La boucle est ainsi bouclée. Avec cet ultime tome, nous ramenant donc aux sources de la série, et là je parle bien de Gunm et non pas de Gunm Last Order, on a non seulement l'impression que l'auteur veut faire le lien qui s'était rompu il y a bien longtemps, mais aussi et surtout, il nous donne l'impression de vouloir exorciser les trop nombreux volumes, nous éloignant de sa magnifique fresque pour nous entraîner dans le n'importe quoi, il n'y a pas d'autre mot, comme s'il voulait faire amende honorable. Un peu comme un mourant qui se repent sur son lit de mort. C'est exactement ce qu'est ce dernier tome, une confession de trop nombreux péchés ayant sali la mémoire de Gunm et une ultime tentative de se racheter. Et malgré tout le mépris qu'on a pu avoir pour certains tomes venant réduire à néant la magie de Gunm, on ne peut être définitivement rancunier tant ce dernier volume joue avec notre corde sensible et nous rappelle les si bons moments. On va donc suivre l'ultime périple de Foggia, Ido, Chaos et Koyomi à la recherche de Gally, où ils seront confrontés à Nova. Tous les éléments y sont. Et là, on pourrait peut-être malgré tout être déçu. C'est qu'il apparaît comme un comble de clore cette saga avec un ultime tome où Gally est totalement absente, si ce n'est dans la dernière page. Ainsi, ce tome et cette conclusion font le lien avec celle que l'auteur nous avait proposée dans le volume 9 de Gunm, et à bien y regarder, peut-être que Gunm Last Order n'aurait jamais dû voir le jour, afin de ne pas entacher l'image de cette mythique série, ou alors il aurait fallu l'amputer de plusieurs tomes. Quoi qu'il en soit, ce dernier volume est excellent, il nous replonge dans l'ambiance qu'on chérissait tant, et au final, on oublie toutes les maladresses pour ne retenir que ce moment magique, qui aurait dû rester figé à jamais et qui cette fois se doit de le rester. Voilà, donc je rappelle que la série Gunm Last Order, la réédition 2018, est à retrouver donc en 12 tomes, une série qui est donc terminée avec ses 12 tomes aux éditions Glénat. On va pouvoir s'écouter tout de suite la chanson Still Alive de BZ et on viendra juste après pour une actualité au Japon.
優しい人よ。差し出されたその手は僕が掴もう。声を聞かせてよ Baby you're still alive。 身も心もあなたに注ぐから何一つ終わりじゃない。
Donc c'était BZ avec la chanson Still Alive. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc c'est très bon, le premier ministre japonais Fumio Kishida s'est mis en scène mercredi 30 août dans une vidéo où on le voit manger du poisson de Fukushima pour promouvoir les produits de cette région après les restrictions chinoises liées au rejet des eaux de la centrale nucléaire accidentée. Cette vidéo, diffusée par le gouvernement japonais sur les réseaux sociaux, montre le dirigeant attablé avec trois de ses ministres dégustant de la sole, du porc, du riz, des légumes et des fruits de Fukushima, dont Tokyo s'est engagé à défendre la réputation après sa décision controversée. Face à la caméra, le chef du gouvernement a appelé à consommer ces produits de la mer japonais sûrs et délicieux, après avoir avalé une bouchée de sashimi. Le Japon a commencé la semaine dernière à rejeter dans l'océan Pacifique l'eau issue notamment des injections nécessaires pour refroidir les réacteurs endommagés de la centrale de Fukushima Daiichi depuis le tsunami de 2011 dans le nord-est du Japon. De nombreux acteurs de l'industrie de la pêche japonaise s'inquiétaient de longue date de l'impact de cette décision sur la réputation des produits de la mer du pays. La Chine a d'ailleurs suspendu la semaine dernière toutes ses importations de produits de la mer en provenance du Japon, en réaction à cette opération, validée par l'Agence internationale de l'énergie atomique et dont Tokyo assure qu'elle sera sans danger pour l'environnement et la santé humaine. L'ambassade japonaise à Pékin et des écoles nippones en Chine ont été la cible de jets de briques et d'œufs, et Tokyo a appelé ses ressortissants sur place à s'abstenir de parler fort en japonais. Des entreprises nippones ont par ailleurs subi une vague de harcèlement téléphonique provenant de numéros chinois. Voilà, du coup, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Mountain A Go-Go 2 de Captain Stradom qui a servi de 7ème ending pour l'anime Naruto. Et on revient juste après pour finir l'émission avec une news musicale. Donc c'était Captain Stradom avec la chanson Mountain A Go-Go 2 qui est servie de 7ème ending pour l'anime Naruto. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Donc le groupe Sexy Zone dévoilera son 24ème single Hone to Tatemae le 20 septembre prochain. Avant même la sortie du single, le groupe a déjà publié le clip vidéo de la chanson titre que vous pouvez découvrir sur internet dès à présent. La chanson titre éponyme du single sera utilisée en tant que chanson thème du drama Usokon, actuellement en cours de diffusion au Japon depuis le 11 juillet, où l'on retrouve le membre du groupe Fuma Kikuchi dans le rôle principal de Takumi Natsume, aux côtés de Neru Nagahama, une ex-membre de Keiakizaka 46. Écrite et arrangée par la chanteuse Shin Ringo, elle est décrite comme étant une chanson faisant ressortir le charme du groupe comme jamais auparavant, tout en vous transmettant pleinement le thème du drama, à savoir une histoire d'amour aigre-douce pour adultes, qui commence avec un mensonge. Le single comprendra également deux autres chansons inédites, Sky is Clear et Bokuga Bokude Irareru Wake. Try This One More Time a été sélectionné en tant que chanson thème pour la version doublée en japonais du blockbuster hollywoodien Transformers Rise of the Beast, dans lequel le membre Kento Nakajima prête sa voix en tant que seiyuu au personnage principal de Noah Diaz. Quant à la piste Green Light, elle sera utilisée en tant que chanson thème pour la campagne publicitaire automne 2023 de la marque de lingerie et de vêtements Peach John, avec le membre So Matsushima en tant qu'égérie. Le single sera décliné en 4 éditions, une édition régulière, deux éditions limitées A et B, ainsi qu'une édition limitée vendue exclusivement sur les lieux de leur tournée actuelle, donc intitulée Sexy Zone Live Tour 2023 Chapter 2. Voilà, donc on va pouvoir s'écouter la chanson Hone to Tatemae de Sexy Zone pour terminer l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, on se retrouve lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Three, two, one. Sexy.